Matière à penser, Dominique Rousset.
Et la suite de notre série « Dans un monde inégal, qu'avons-nous en commun ?» Il s'agissait de proposer depuis lundi à mes invités de cette semaine une réflexion double sur la croissance des inégalités observées dans toutes les régions du monde, mais aussi sur un avenir peut-être meilleur si l'on veut bien partager ce qu'on appelle les biens communs, ce que nous offre la nature, la culture ou la vie sociale. On parlera surtout d'inégalités ce soir dans un domaine qui est assez peu exploré. Et curieusement d'ailleurs, il est pourtant de plus en plus prégnant et selon mon invité, on ferait bien de s'en occuper. En France, question autour de la famille, du patrimoine, du mérite et du partage, nous parlons du retour de l'héritage. Bonsoir Nicolas Frémaux.
Bonsoir.
C'est l'objet de votre recherche la plus récente avec un livre qui est paru au Seuil dans la très bonne République des idées, Les nouveaux héritiers. Mais auparavant, j'avais envie de le préciser, vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Paris 2, vous êtes également conseiller scientifique à France Stratégie, l'organisme de réflexion, de prospective français. Et je voulais insister sur la thèse de doctorat, parce qu'elle n'est pas si ancienne, que vous avez soutenue en 2013, déjà sur l'économie de la famille, mieux comprendre au fond toutes ces conséquences du retour du capital, du patrimoine hérité. Vous avez travaillé sur les sensibilités familiales et les comportements, notamment dans le mariage. Et ça va nous dire beaucoup de choses sur ce qui va suivre.
Oui, tout à fait. Ce que je montre dans cette thèse, c'est que la famille, en fait, est de retour. Enfin, même si elle n'a jamais vraiment disparu, mais il y a deux types de liens qu'on peut voir avec les inégalités. Il y a le premier qui est vraiment entre les conjoints au moment du choix du conjoint, donc qui est déjà une question qui est très ancienne, hein, notamment en France, qui a été étudiée dès la fin des années 50 à l'INED avec les travaux d'Alain Girard, qui essaie de mesurer un peu qui se mettait en couple avec qui de façon empirique. Mais pendant longtemps, cette question-là est restée posée au niveau de l'éducation ou de la CSP, donc de la position sociale des individus ou celle de leurs parents. Et finalement, beaucoup moins sur les questions directement liées au patrimoine, pas parce que les économistes s'en désintéressaient, mais aussi parce que c'était compliqué en fait de mesurer qui avait reçu quoi en termes d'héritage. Il faut des données assez riches, il faut savoir donc au sein du couple qui a reçu quoi. Et donc on a pu le faire seulement récemment, et c'est notamment ce que j'ai fait dans ma thèse, en essayant de regarder sur des deux traits vraiment patrimoniaux qui sont d'un côté l'héritage, et de l'autre côté, les comportements qu'on a vis-à-vis de l'épargne, donc la prévoyance ou l'altruisme, est-ce que les personnes se ressemblaient de ces deux points de vue-là ?
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que par exemple, vous avez souligné une sensibilité des individus à la source de richesse de leur conjoint. Ça les intéresse avant de se décider, quasiment.
Exactement. C'est ce qu'on voit sur la question des héritages, c'est que les héritiers se mettent en couple avec des héritières. Donc ça paraît pas très nouveau, mais en même temps, il faut encore le mesurer. Et donc, ce qu'on montre, c'est que c'est toujours vrai aujourd'hui.
Il y a une grande similarité, en fait, dans les choix des conjoints.
C'est ça. Voilà, les héritiers se mettent en couple avec des héritières et d'autant plus fort que l'héritage est important. Donc, en haut de la distribution, parmi les riches héritiers, ils ont encore plus, une probabilité encore plus importante de se mettre en couple avec des riches héritières. Donc, ça, c'était le premier élément. Et ce qu'on mettait aussi en avant, c'est que, donc, la source de richesse compte. C'est-à-dire que vous avez grosso modo deux moyens d'être riche, soit vous travaillez, vous épargnez et donc vous accumulez du patrimoine, ou alors vous héritez de l'autre côté. Et ce qu'on voit, c'est que les deux ne se valent pas, c'est-à-dire que les héritiers sont vraiment sensibles à l'héritage et que un patrimoine accumulé n'aura pas la même valeur, enfin ça aura une valeur moins importante. Donc il y a vraiment deux mondes très cloisonnés de ce point de vue-là, et on ne peut pas échanger finalement de l'héritage par plus de revenus du travail. En tout cas, ce n'est pas parfait et ça ne permet pas de compenser cette partie non héritée de notre patrimoine.
Autre tendance que vous avez soulignée, une tendance croissante, mais ça je crois que ce n'est pas forcément une surprise, mais à la séparation de biens. Alors, soit on ne se marie pas du tout, soit on veille à faire un contrat.
C'est ça, c'est aujourd'hui. Donc, c'est la question qui est venue ensuite. Donc, une fois qu'on a choisi notre conjoint, on peut avoir tout un tas de modes de vie en couple qui peuvent varier. Donc, le fait de ne pas se marier, donc ça, c'était très documenté. Et on sait qu'on a un déclin du mariage qui n'est pas propre à la France du tout, hein, qu'on retrouve dans plein de pays. Encore plus marqué, vu qu'on a, donc, depuis 99, donc, le recours au PACS, qui est une sorte de situation intermédiaire entre, enfin, qui est plus proche du mariage que de...
Et qui est très pratiqué, hein. En France, c'est un...
Qui est très pratiqué, oui. Ouais, c'est qui est autant, il y a autant, quasiment autant de mariages que de PACS, donc, en termes de flux. Et ce qu'on a mis en évidence, donc ça c'est dans des travaux qui sont dans ma thèse, mais réalisés aussi avec Marion Le Turc, qui est chercheuse à l'INED, ce qu'on a montré, c'est qu'au sein des couples mariés, en fait, il y avait aussi beaucoup de changements. Donc ils sont à la fois moins nombreux, mais ils sont de plus en plus, donc ces couples mariés, à faire de la séparation de biens, c'est-à-dire à ne plus mettre en commun leur patrimoine et à aller chez un notaire et faire de la séparation de biens. Ce qui n'est pas si évident que ça, c'est-à-dire que pendant très longtemps, et on l'a mis en évidence historique, pendant très longtemps, c'était donc le mariage en communauté qui était vraiment la norme. Il faut attendre vraiment les années 70 pour qu'il y ait cette augmentation de la séparation de biens qui concerne aujourd'hui à peu près 20% des couples qui se marient tous les ans. Donc, ça reste une minorité.
Ah, ça reste une minorité quand même.
Ça reste une minorité, mais ce qu'on voit, c'est que c'est y a une grosse différence entre le poids démographique et le poids patrimonial. C'est-à-dire que les personnes qui vont choisir de faire la séparation de biens sont pas n'importe qui et sont surtout donc les couples les plus riches et aussi les plus inégaux, ceux qui ont déjà divorcé avant. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui va expliquer cette hausse depuis quelques décennies.
Alors, autre donnée sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour discuter de ces nouveaux héritiers, le patrimoine des Français a doublé, ça le fait plutôt plaisir. Problème, et vous le dites d'emblée au début de votre livre, ce sont de grandes inégalités qui se sont accentuées. Et 10%, c'est cela, hein, des Français en fait auraient plus de la moitié des richesses. On parle bien sûr des richesses privées, hein, pas de la richesse nationale. Et 1% en posséderait le quart. En clair, ce n'est pas au mérite, mais par la naissance que l'on devient riche. Bien né.
Oui, c'est ça. Enfin, là, faut vraiment distinguer le patrimoine du patrimoine hérité. Donc, ce qu'on voit en France, c'est qu'on n'a jamais été aussi riche, en tout cas pas depuis très longtemps. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, patrimoine en lui-même est pas un problème, mais c'est plutôt une ressource qui est très importante, qui peut permettre de financer plein de choses. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Le problème, c'est d'une, qu'il profite pas à tout le monde, et de deux, c'est qu'il vient surtout de l'héritage. C'est-à-dire, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on peut décomposer justement le patrimoine en une partie qui est vraiment héritée, donc en cumulant toutes les donations et les héritages, donc ce qui est transmis du vivant et au décès. Et de l'autre côté, ce qui est épargné par les individus, donc le côté vraiment hérité et accumulé. Et ce qu'on voit, c'est que dans les deux, aujourd'hui, si on prend les données les plus récentes, le patrimoine hérité, c'est à peu près les 2/3 du patrimoine total. Et ça, ça n'a pas toujours été vrai, c'est-à-dire que dans les années 70, c'était exactement l'inverse, donc 1/3 d'héritage et 2/3 de patrimoine. Donc c'est ce côté-là. Ce côté hérité qui devient de plus en plus important. Donc, en ce sens, on est vraiment déjà de retour à une société d'héritiers. Alors, pas au même niveau que ce qu'on avait au 19e.
Alors voilà, j'allais dire, on peut remonter jusqu'au 19e siècle pour retrouver des situations pas tout à fait au même niveau, mais pas loin. Hein.
C'est significativement supérieur. C'était le patrimoine hérité. C'était
90%, je crois.
Voilà, 90% avant la Première Guerre mondiale. Donc, plutôt autour de 60 aujourd'hui, mais avec une tendance qui est quand même assez rapide. Donc, c'est-à-dire que si on ne fait rien, on peut revenir quasiment automatiquement à ces niveaux-là, avec certes des différences, notamment sur l'âge du patrimoine, enfin, les façons de transmettre, mais en tout cas, en termes d'agrégats, on peut revenir à ces niveaux-là assez rapidement.
Oui. On voit aussi les travaux des chercheurs que vous avez repris et vous en citez quelques-uns et qui sont plus ou moins pour l'héritage. John Stuart Mill, notamment. D'ailleurs, on est frappé par tous les travaux en Grande-Bretagne, en Angleterre en général, on va y revenir aussi. John Stuart qui disait carrément que cela n'était pas une bonne chose d'hériter, que la famille ne devait pas compter, finalement, c'est bien ça dans la transmission.
C'est ça, vous avez plusieurs. Historiquement, vous avez beaucoup d'opposition à l'héritage. C'est plus une question philosophique qu'économique. Donc, les questions, aujourd'hui, les débats qu'on peut avoir en faveur ou en défaveur de la fiscalité des héritages, en fait, c'est des questions qui se posent depuis 2 siècles et il n'y a rien de nouveau dans les débats aujourd'hui. Donc, on n'invente pas du tout inventé quoi que ce soit dans ce livre. C'est juste vraiment de faire un état des lieux à la fois des faits et aussi de la teneur des débats aujourd'hui et hier, enfin, il y a vraiment beaucoup plus loin dans l'histoire. Et ce qu'on voit en effet, c'est qu'il y a des oppositions très libérales et aussi très à gauche face à l'héritage. Donc vous avez vraiment des tenants de l'abolition de la propriété privée qui veulent aussi abolir l'héritage avec des variantes et aussi très à droite chez les libéraux qui nous disent que votre succès doit être seulement dû à vous-même et que la famille ne doit pas rentrer en ligne de compte. Donc dans ces deux cas-là, on peut se retrouver avec des gens très opposés mais avec la même volonté de limiter l'héritage parce qu'ils pensent notamment qu'à la fois c'est pas bon économiquement mais aussi pour la cohésion sociale, les inégalités trop fortes et un poids du patrimoine, si tout est joué à la naissance, en fait on peut se retrouver dans des sociétés où la cohésion sera pas terre faute. Et donc chez certains chercheurs comme Durkheim par exemple, c'est un gros souci chez lui, c'est une grosse inquiétude justement manque de cohésion qui peut découler des inégalités extrêmes et aussi de l'héritage.
Encore un point sur le passé, Nicolas Frémaux, pourquoi cette chute au fond? Vous avez parlé du 19e siècle, on est là dans les romans de Balzac, l'héritage, on a tous lu beaucoup de choses à ce sujet. Mais pourquoi est-ce que cela chute? C'est après quoi, la Première Guerre mondiale ou à cause?
Ça commence avec la Première Guerre mondiale, simplement à cause de la guerre en elle-même.
Bien sûr.
Voilà, de la destruction physique des biens, il y a aussi donc des biens financiers, mais ça continue en fait. Il y a vraiment toute la première moitié du XXe siècle qui va amener plusieurs chocs, donc les deux guerres mondiales cumulées en une trentaine d'années, la crise économique de 1929, donc au milieu de tout ça. Donc ça, c'est un peu pour les chocs exogènes qui vont détruire beaucoup de capital, donc matériel et immatériel, en plus de toutes les vies humaines des deux guerres, évidemment. Et vous avez au même moment aussi, à la même époque, la mise en place de l'État-providence, donc avec des impôts progressifs, donc sur les revenus et aussi sur l'héritage, qui vont être dans certains pays très forts. Donc là, ça va varier vraiment d'un pays à l'autre, mais vous avez les États-Unis qui vont quasiment confisquer les héritages au-delà d'un certain seuil. Pareil pour l'Angleterre. La France va le faire, mais sur une période assez courte. Et donc, ça va contribuer à rendre beaucoup plus difficile, en fait, l'accumulation du patrimoine. Donc, une fois que tout est détruit, en fait, pour reconstruire les patrimoines, ça va prendre du temps. Avant, au 19e siècle, on pouvait avoir des chocs, pas aussi importants que les guerres mondiales, mais bon, sans impôts derrière pour nous empêcher d'épargner. Au milieu du 20e, c'est plus du tout le cas. Et donc, le retour à l'inverse
après,
du patrimoine.
Après, arrive l'État-providence, quand même, j'imagine,
c'est
après
ça,
la
oui.
deuxième.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Donc, avec tout, enfin, voilà, il y a beaucoup de dépenses à financer. Donc, on va les financer par l'impôt, des impôts assez progressifs qu'on n'avait pas au début du 20e. Et donc, le retour, en fait, du patrimoine, bah, il s'inscrit dans un mouvement inverse. C'est qu'on n'a plus ces chocs exogènes. Donc, on n'a plus nouvelle guerre mondiale. Donc, là, ce qui est quand même très bonne nouvelle, évidemment. Mais on a aussi un desserrement, en fait, de la progressivité de l'impôt. C'est-à-dire que la situation aujourd'hui, en fait, on a une emprise dessus. Il n'y a aucune fatalité à avoir un retour de l'héritage. Et on a, aujourd'hui, c'est la situation et vraiment la conséquence de choix politiques depuis les années 70.
Claire et assumée. Et aux États-Unis, dont vous parliez pour le début du siècle, 10% aujourd'hui des plus riches détiennent 73% du patrimoine. 10% les mieux dotés, 99% des placements financiers. Je crois que ce sont des chiffres qu'on a déjà entendus, mais qui sont quand même assez impressionnants. Pour quelle raison, à votre avis, cette question de l'héritage, parce que vous le notez, est éludée des débats de société? Il y a peut-être un paramètre déjà affectif, non? On touche à la famille, on touche
oui,
à des...
c'est
sensible.
Exactement, non, c'est vraiment très très sensible. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux types d'arguments pour les personnes qui vont s'opposer à la fiscalité de la succession. Il y a tout ce qui va concerner l'efficacité économique en disant, si on taxe les héritages, alors les gens vont s'arrêter d'entreprendre, d'innover, d'épargner ou vont partir à l'étranger. Donc c'est évidemment des limites qui doivent être analysées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout les éluder, mais en même temps, les travaux empiriques qui sont faits, qui doivent être faits encore, montrent que ces remarques-là sont clairement pas secondaire, mais doit être nuancé, c'est-à-dire que c'est pas tout noir ou tout blanc, et donc faut faire attention à ces arguments-là. L'autre argument qui est plus important à mes yeux, c'est le côté très impopulaire de l'héritage.
L'impôt avec sur du coup des idées reçues, hein, d'ailleurs des erreurs, oui.
C'est ça. Donc il y a deux éléments. Si vous demandez aujourd'hui aux ménages quelle est leur connaissance en fait de la fiscalité, en fait on se rend compte qu'ils connaissent très mal la fiscalité, connaissent très mal leurs droits. Donc c'est pas propre à la France et c'est pas non plus parce que les gens sont stupides. C'est simplement que l'impôt est très complexe et qu'on n'y fait pas face beaucoup de fois dans notre vie. Donc l'impôt sur les successions, on peut y faire face quelques fois, mais on le paye pas tous les ans. Et donc on a des erreurs de mesure qui font que les gens ont tendance à déjà mal connaître leurs droits, mais en plus à surestimer assez fortement l'impôt. Donc ce biais-là, et si vous pensez être déjà imposé, vous n'allez pas demander justement à avoir des réformes qui vont alourdir l'impôt. Et surtout, il y a le côté vraiment moral. C'est-à-dire que même quand vous avez la bonne information, est importante, même quand vous avez la bonne information, l'impôt est vu comme immoral parce qu'il vous empêche en fait de transmettre du patrimoine à vos enfants. Il peut générer des conflits au sein de la famille. Il est vu comme une taxe sur la mort, donc quelque chose qui est immoral à nouveau.
Et donc, qui vient s'ajouter à la douleur du deuil. C'est une sorte d'intrusion au fond.
C'est ça. Oui.
Dans enfin, l'intimité d'une famille.
Voilà, l'impôt pendant longtemps a été vu comme une intrusion dans la vie privée, mais là l'héritage, c'est vraiment voilà, on va regarder dans vos affaires, voir qui et qui récupère quoi, et ça peut être très intrusif. Et donc si on veut comprendre aujourd'hui, face à tous ces phénomènes justement de rejet de l'impôt, il faut bien comprendre ce côté pas vraiment la question de l'efficacité qui va intéresser évidemment les économistes et qui est très importante, mais pourquoi est-ce que on a ce repli sur la famille et pourquoi est-ce qu'on a un rejet des solidarités, parce que ça touche quelque chose de beaucoup plus large que l'impôt. C'est aujourd'hui on va défendre la famille en disant voilà, il veut toucher pas à mon héritage, mais en dépit d'une hausse des inégalités très forte. Donc les gens sont tout à fait conscients de l'inégalité de la société, du fait
mais
que
ils l'assument.
Mais ils sont prêts à l'assumer, c'est ça, leur famille est trop importante pour eux. Et cette prégnance de la famille aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très qui est très complexe à expliquer, qui doit vraiment être prise en compte. Donc c'est vraiment ça qui va expliquer aujourd'hui.
Au passage, parce que ça a été étudié non par des économistes d'abord, je crois que vous citez Joseph Stiglitz, mais aussi par des sociologues, les Pinson-Charlot notamment, Monique Pinson-Charlot et son mari. Au passage, ce sont quand même souvent les plus riches ou les classes bourgeoises. Là, on revient un peu à l'époque balzacienne, mais qui entretiennent un peu ce mythe de laissez-nous décider seuls de nos héritages et de notre transmission.
Oui, ça va être ça. Donc,
c'est un phénomène bien étudié, on me dirait, c'est eux qui détiennent l'argent.
Oui, mais si vous êtes riche, vous n'avez pas intérêt de dire laissez-moi, enfin, ne me touchez pas parce que je suis riche. Donc vous avez intérêt à jouer sur la corde sensible qui est celle plutôt de la famille. Mais ce qu'on voit, c'est que ça suffit pas à expliquer finalement. Enfin, c'est une des versions, disons qu'il y aurait une sorte de coalition entre les plus riches et les valeurs familiales pour expliquer ce rejet, mettre le paquet sur la famille plus que sur le côté vraiment très libéral. Ce qu'on voit, c'est que cette impopularité de l'héritage, elle est très forte, même chez les gens qui n'héritent pas. Donc c'est ça le côté plus paradoxal. C'est pas seulement les plus riches qui seraient touchés par l'impôt qu'ils rejettent, ce qui serait tout à fait rationnel de leur part. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a le côté information dont on a parlé qui peut expliquer ça, mais même les gens qui n'ont rien reçu, qui prévoient de ne rien léguer, veulent aussi une suppression de l'impôt. Donc c'est ça le plus paradoxal dans l'histoire. Et c'est vraiment le côté familial, donc touchez pas ma famille, qui peut expliquer ça en tout cas.
Côté idée reçue, peut-être encore un chiffre, alors qu'on a de plus en plus de transmission, en réalité, seuls 88% sont taxés. Et le montant moyen d'un héritage, c'est 33 000 euros.
C'est ça, 88% ne sont pas taxés. Donc
ne sont pas taxés, pardon. Alors qu'on a, on est de plus en plus dans ce phénomène. Oui,
oui c'est ça, c'est vraiment la surestimation, la surestimation qu'on a. C'est aujourd'hui, si vous demandez, donc si on revient sur les études, il y a beaucoup d'études faites sur ce que les Français pensent de l'impôt, qui sont très importantes pour savoir voilà, justement qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'on peut faire. Ce qu'on voit, c'est que les Français vont surestimer vraiment cet impôt-là, alors que dans les faits, il n'est pas si taxé que ça. Enfin, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un impôt, en fait, en France, qui est très dual. Si on regarde les recettes totales, en fait, c'est un impôt qui s'est plutôt bien maintenu par rapport aux autres pays. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont supprimé l'impôt. Et en France, on a des
recettes... Pourquoi l'ont-ils supprimé? Alors, sur quelle mesure? On va revenir, hein, aux propositions de fiscalité, mais...
Bah, c'est une tendance générale, maintenant, depuis les années 70-80. Si on comprend pourquoi ça a été fait, je pense qu'on résout une grande partie du problème. C'est vraiment, on peut revenir sur ces...
C'est pression sociale, alors, vous voulez dire?
Oui, c'est très impopulaire, donc c'est assez facile de jouer là-dessus, et les gens vont plutôt vous soutenir si justement vous augmentez, les abattements, vous diminuez l'impôt. Il y a toujours aussi la peur, voilà, que de l'exil fiscal qui peut être mise en avant, même si je pense que ça touche assez peu les gens finalement. Aujourd'hui, si les Français ont peur de, enfin, n'aiment pas l'impôt, c'est pas parce qu'ils ont peur que Bernard Arnault s'en aille, mais parce qu'ils ont peur qu'on leur empêche de transmettre à leurs enfants. Donc c'est vraiment, je pense, les valeurs familiales vont jouer énormément là-dessus, mais c'est une tendance très générale qui dépasse vraiment le cadre de l'impôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi un rejet des solidarités de façon plus générale et un retour à un système fiscal qui est moins progressif qu'avant. Donc c'est pas juste l'héritage, même s'il est central, mais c'est aussi tout le système qui a changé un peu de
clairement, pour vous, Nicolas Framot, c'est un enjeu démocratique très fort.
Oui, je pense que le côté mérite est très ancré, enfin le lien entre mérite et démocratie sont très ancrés, et c'est très compliqué à mes yeux, enfin c'est un peu ce que disait déjà Durkheim, donc là je dis rien de nouveau, mais je pense que c'est très compliqué de demander aux gens d'adhérer à des valeurs communes si les inégalités sont très extrêmes, de leur demander d'être des bons gentils citoyens, s'ils voient leur destinée sociale et économique diverger, si en plus de ça elles sont pas méritées ou elles sont pas vues comme étant méritées, je pense que c'est très compliqué de leur demander ça, enfin et je pense que ça peut conduire à des réponse politique assez violente, et donc on n'en est pas là évidemment, mais la montée des populismes, enfin il y a énormément de causes, notamment les questions de migration qui vont jouer sur laquelle surfent les partis populistes, mais la question des inégalités, de la perception qu'en ont les individus, je pense que doit pas être du tout, assez centrale ici aussi dans ce genre d'évolution. Ouais.
Et comme vous l'avez rappelé, il y a souvent en plus des conflits, 22% des familles, il y aurait des conflits à propos de leur héritage, j'ai lu ça, c'est énorme.
Oui, c'est énorme, et ce qui est encore plus, c'est pas vraiment drôle justement, mais ce qui est encore plus frappant, c'est que ça touche toutes les familles. Et c'est pas seulement les riches où il y a énormément de millions en jeu. On a vu avec les cas de la famille Hallyday, par exemple. Ce que des études de sociologues ont montré, c'est que même quand il n'y a rien de valeur, en fait, les conflits peuvent quand même être créés parce que ça va être lié à énormément de choses sur la valeur sentimentale, notamment des objets. Donc il y a énormément de conflits qui peuvent être créés. C'est pour ça que les individus ont peur aussi de l'impôt parce que ça peut contribuer à un impôt assez fort sur l'héritage, à devoir vendre la maison de famille. Et donc si tout le monde n'est pas d'accord, ça peut. Enfin, il y a beaucoup de films là-dessus, L'heure d'été, notamment d'Olivia Sayas, qui parle très bien de ça et qui illustre en fait les conflits que ça peut créer, même sans millions d'euros en jeu. Donc oui.
À la mort de leur mère, tous les fils sont venus pour parler au notaire afin d'avoir des écus. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Les bons de la victoire disparurent en premier et les fonds de tiroir étalés sur le plancher. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Moi, je prends la maison, je suis l'aîné des garçons. Non, toi, ce sera le piano, emporte-le dans sur ton dos. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. La terre, voyons notaire, on se l'a dit, disant lopin. Non, c'est pas nécessaire, elle l'a donné aux voisins. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Dites-nous dans les bâtiments, qui c'est qui va mériter? C'est écrit dans le testament, que ça va aux œuvres de charité. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Fils qui est médecin hérite du râteau à foin. Celui qui est aviateur d'une paire de bœufs sans valeur. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. T'es à Béatrice voulait le veau, c'est Siméon qui l'a eu, donc elle a ouvert le clos, v'là l'orphelin dans la rue. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. De la maison reste collé avec l'horloge, dans le tic-tac de l'horloge était roulé un million. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, c'est la vieille qui a gagné.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Et notre série cette semaine, dans un monde inégal, qu'avons-nous en commun? Nous parlons des nouveaux héritiers avec Nicolas Frémaux, maître de conférence économie, Université de Paris 2, qui a travaillé longuement sur ce sujet, sur les comportements des familles et sur la fiscalité, en pointant, comme vous venez de nous le dire, Nicolas Frémaux, quand même l'importance de ces héritages dans notre économie nationale et dans les inégalités croissantes que nous observons. On va se rapprocher d'ailleurs de la question des communs par la suite, et Félix Leclerc nous y emmène d'ailleurs, cette chanson où tout se retrouve finalement. Quelles mesures faudrait-il prendre pour remédier aux effets de ce phénomène? Une chose est sûre, c'est qu'on va pas vers une descente, on va au contraire vers une augmentation. On est bien d'accord, les comportements tous s'y prêtent. Ça a été observé notamment en France Stratégie, dont vous êtes un conseiller également.
Oui. Enfin, c'est pas moi qui ai rédigé la note, mais
oui,
voyez ce qu'on
voit. Il y a une note récente.
Les projections, ils nous amènent vers de plus en plus d'héritages, avec des transformations qui sont assez importantes quand même sur l'âge auquel on hérite. Donc, on revient à une société d'héritiers comme au 19e, au point de vue agrégé, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, le fait, par exemple, d'avoir une espérance de vie de beaucoup plus longue, donc ce qui est à nouveau une bonne nouvelle, fait que, on hérite beaucoup plus tard aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'âge qu'on a, donc, au décès de nos parents, c'est environ 55 ans. Et donc, ça, c'est voué à augmenter. Donc, si les gains d'espérance de vie continuent. Donc, ça offre des héritages qui sont transmis plus tard.
Mais plus. On hérite plus tard,
mais
davantage.
Oui.
Des montants plus importants. Reprenons un petit peu la situation actuelle. On ne peut pas, en France, parce que c'est pas le cas partout, transmettre son héritage à qui on veut. On ne peut pas non plus déshériter un enfant, à moins qu'il ait été frappé d'indignité.
Oui,
d'indignité,
donc c'est assez rare, ça, faut voir.
Ce qui est un cas très
rare. Ses parents pour être,
à moins qu'il ait voulu tuer ses parents pour hériter.
C'est à peu près la seule cas.
C'est une bonne raison.
Non, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc ces questions-là, ça remonte à vraiment des questions très anciennes qui ont été réglées entre guillemets en France au moment de la Révolution française. C'est-à-dire que le but, c'est de savoir à qui donner, comment est-ce qu'on va répartir son héritage. Donc avant de savoir, avant de regarder les inégalités entre héritiers et non héritiers, il faut déjà, un premier niveau, c'est de regarder ce qui se passe au sein de la famille. Et dans le cas de la France, justement, juste pendant l'ancien régime, on pouvait donner à qui on voulait. Souvent, c'était le fils aîné qui récupérait tout l'héritage, notamment l'exploitation agricole et donc toutes les terres. Vu que l'économie était très agricole à l'époque, évidemment. Et donc ça a été changé au moment de la Révolution. Donc on a aboli les privilèges, on essaie aussi de régler des questions au sein des familles, notamment en égalisant les héritages des différents enfants, donc notamment entre garçons et filles, mais aussi entre les garçons, vu que certains garçons pouvaient être déshérités. Et donc depuis, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'en France, vous avez une liberté de tester, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir faire ce que vous voulez de votre héritage par votre testament, qui est assez limité, qui va porter sur une petite partie du patrimoine et qui va dépendre du nombre d'enfants, donc avec des règles mathématiques, mais qui fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Clairement.
Avantager un enfant, c'est possible, mais pas tout lui donner.
C'est possible, mais à la marge. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Vous ne pouvez pas tout lui donner. Après, vous pouvez passer par des petites astuces, c'est de passer par des contrats d'assurance vie aussi, qui sortent de la succession, donc vous pouvez l'attribuer à un de vos enfants. Donc c'est toujours bon, bon à savoir aussi. Mais voilà, il y a à l'inverse, aux États-Unis, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous avez donc le testament qui un peu comme la chanson qu'on vient d'entendre, qui vous permet de tout donner à l'un ou à l'autre, de distribuer comme vous voulez.
Ouais. Royaume-Uni aussi, je crois, hein, peut donner
ça,
à l'un de ses enfants si l'on souhaite.
C'est les pays plutôt
libéraux.
Voilà, anglo-saxons qui vont faire ça, sans que ce soit fait forcément tout le temps. C'est-à-dire que dans le cas de la France, par exemple, même si vous avez cette liberté-là, en fait, on va avoir un héritage qui va être égal. Aux États-Unis, pareil, 100% des héritages ne sont pas donnés à l'un ou à l'autre. Vous avez environ 80% qui restent égaux entre les enfants. Donc les gens ne vont pas forcément l'utiliser à 100%. Parce qu'ils vont aussi vouloir donner la même chose à tous les enfants et pas forcément favoriser l'un ou l'autre.
Oui. Alors le grand débat actuellement, et vous êtes évidemment pour qu'il y ait ce débat, puisqu'il faut remettre cette question sur le tapis, si les chercheurs s'en occupent, la société s'en est pas mal détournée dans ce que vous nous dites, Est-ce qu'il faut taxer, au fond, la détention ou la transmission? Est-ce qu'il faut faire des taxes progressives tout au long du parcours d'une vie? Alors, vous allez peut-être nous dire quelle est votre solution à vous, en tout cas ce que vous préconisez. Mais qu'est-ce qui est privilégié actuellement dans la réflexion publique?
Actuellement, en France, ça a changé avec le dernier gouvernement. On va plutôt taxer... on taxe les trois, donc c'est ce qui est important dans le patrimoine, c'est quand vous avez une réflexion sur la fiscalité du patrimoine, vous pouvez pas réfléchir à seulement en succession sans réfléchir à la détention et aux revenus. Donc en France actuellement, on a limité justement la fiscalité sur les revenus et aussi sur la détention en transformant l'ISF en IFI, et puis proportionnelle à la fiscalité des revenus financiers. Donc on a diminué ces impôts-là sans toucher de l'autre côté donc à la fiscalité des successions, alors que c'était ce qu'avait plus ou moins sous-entendu Emmanuel Macron lorsqu'il était encore ministre, ouais. Justement, qui préférait lui taxer donc ne pas taxer les détentions et préférer taxer donc la rente et donc les successions. Donc on est plutôt sur une solution où, on taxe un peu les trois, mais on a diminué plutôt les revenus et la détention.
Est-ce que ça veut dire parce que les économistes sont pas tous d'accord là-dessus, hein, je crois. Certains sont peut-être pour favoriser, au contraire, l'entreprise, taxer les rentiers, et puis favoriser ceux qui travaillent, là. On reconnaît un peu ce que vous venez de dire, origine de l'accumulation du patrimoine, hein, ça peut compter. D'autres, au contraire, taxer le capital, quelle que soit son origine, de manière plus radicale.
Oui, c'est ça. Il y a des grands débats et tout le monde n'est pas d'accord. C'est le débat public. Ce qu'il faut garder, faut être un peu pragmatique face à ces sujets-là. Il y a ce qui marche ou ce qui marche pas. On peut vite tomber dans l'idéologie en disant faut jamais taxer le patrimoine parce que justement on va faire face à une fuite des entrepreneurs, une fuite de l'épargne, etc. Donc sur beaucoup de sujets, en fait, faut être capable d'évaluer ce qui se passe. Et un des problèmes en France, c'est qu'on n'a pas cette culture de l'évaluation. Donc il y a beaucoup de niches fiscales, mais même en dehors des questions de patrimoine, quand on parle justement des dépenses publiques et du pognon de dingue qu'on dépense ou pas, faut juste savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc un des problèmes, c'est ça aussi, c'est que vous avez en France, en fait, comme dans beaucoup de pays, des aides, par exemple, pour transmettre les entreprises au sein de la famille, donc favoriser les entreprises familiales, et qui sont justifiées en se disant que si l'entreprise reste au sein de la famille, on va investir à plus, on va pas avoir les mêmes projections, on va penser à plus à long terme, on va innover, et finalement, c'est peut-être aussi l'héritier qui est le plus à même de reprendre les rênes parce qu'il connaît bien l'entreprise. Pourquoi pas, ça se défend complètement et on peut tout à fait, je suis tout à fait pour, je vais rien contre les entrepreneurs a priori, sauf ce qu'on montre, dans le cas de la France, c'est que c'est pas évalué, donc on sait pas déjà combien ça coûte et on sait pas ce que ça
rapporte.
Et
quelle est la réalité de ce que vous dites, combien sont-ils
C'est ce que beaucoup d'études montrent justement, c'est que généralement l'héritier fait pas mieux que le fondateur, il peut faire même moins bien, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes héritier que vous, il y a beaucoup de cas médiatiques, vous marchez dans les deux sens, mais c'est pas parce que vous êtes héritier que vous êtes forcément meilleur que votre père ou aussi bon que votre père. Donc dans ce cas-là, si ça ne marche pas, si ça marche, autant continuer et le favoriser. Si ça marche pas, il faut faire attention et supprimer ces aides, en tout cas peut-être les cibler sur les cas où ça marche. Ouais. Donc c'est vraiment des questions dans lesquelles il faut être assez pragmatique. Et un des problèmes, c'est le manque d'évaluation, le manque de retour qu'on peut avoir concrètement là, sur ces sujets-là. Ouais.
Par exemple, l'héritage ne peut pas forcément servir à la société. Ça pourrait, on va peut-être y revenir en parlant de dons après. Hein, mais il n'y a pas vraiment le ruissellement sur un héritage. Et l'autre point, je crois que c'est dans la note de France Stratégie, peut-être Stiglitz qui parle de ça, il y a aussi des asymétries, des fameuses asymétries d'information. Il y a ceux qui savent que faire d'un héritage, comment bien calculer sur le fonctionnement des marchés, le faire fructifier, et puis ceux qui ne le savent pas.
Oui, c'est ça.
Quelle que soit la somme héritée, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est pas forcément lié à la... Enfin, même si ça peut quand même être lié à la somme, mais surtout le niveau d'éducation qui peut jouer sur ces questions, les questions d'information. Donc en effet, il y a plusieurs éléments ici. Donc là, un des éléments...
Clair, est-ce qu'on réinvestit ou pas? C'est un peu ça, au fond.
Il n'y a rien d'automatique, en fait. C'est ça, ce qu'on voit, il y a beaucoup de questions qui se posent sur... les limites, les opposants à la fiscalité de l'héritage vont vous dire attention parce que les individus vont, si vous taxez leurs héritages futurs, la transmission future, ils vont être découragés parce qu'ils peuvent plus transmettre à leurs enfants. Donc là, c'est très dur de montrer les effets de la fiscalité sur le taux d'épargne parce que ça se fait aussi beaucoup. Enfin, on n'est pas capable d'observer l'individu au moment où la réforme est mise et au moment où il va décéder. Donc c'est juste dur des fois de l'observer. Donc ce qui a été fait, ce qui était un peu plus simple, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse, mais en tout cas, c'est compliqué de les évaluer. Ce qui a été fait, c'est souvent de regarder ce que fait l'héritier. Donc là, du côté de celui qui reçoit, souvent on va vous dire, l'héritier, il va justement investir, il va innover, il va entreprendre. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui vont montrer que l'héritier, en fait, comme si on gagnait au loto, va surtout s'arrêter de travailler beaucoup plus tôt et partir en retraite. Ce qu'on ferait peut-être tous si on reçoit un jackpot demain. Donc, et aussi, va pas forcément, alors c'est un peu dur à savoir, mais va pas forcément, investir dans des actions, peut acheter. On sait que ça, une donation aide souvent à acheter des biens immobiliers, notamment dans les villes qui sont assez chères, comme à Paris. Donc, il n'y a pas de réponse automatique. Si on regarde différemment de ce qui se passe du côté de l'héritier, on a en fait un argument pour, au contraire, renforcer la taxation si on veut qu'il y ait plus d'efficacité. Parce que si on veut éviter que les personnes arrêtent de travailler, on peut justement avoir un argument ici pour des raisons vraiment d'efficacité économique pour plus taxer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe. Et souvent, les arguments sont beaucoup plus nuancés que les visions un peu simplistes qu'on peut en avoir. Oui.
Les autres pays, encore une fois, alors il y a ceux qui ont supprimé la transmission. En général, la taxation se fait à quel niveau ? Enfin, c'est très variable, j'imagine. Hein,
mais oui, ça peut, au niveau de la donation des successions.
Oui.
Ça peut varier. Souvent, il y a déjà beaucoup de pays là qui ont vraiment supprimé. Donc, on revient
simplement,
pour,
ouais.
pour peut-être préciser. C'est pas seulement les pays très libéraux. C'est qu'on a aussi la Suède, par exemple. Donc, on parle aujourd'hui beaucoup du modèle suédois. Mais la Suède, au début des années 2000, a supprimé donc l'équivalent de l'ISF, a supprimé donc l'impôt sur les successions. Et a aussi fait ce qu'a fait le gouvernement actuel, c'est imposé de façon proportionnelle donc les revenus du patrimoine. Donc, a vraiment beaucoup moins taxé le patrimoine. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est un pays qui est loué pour ses performances, mais on a aussi donc des effets déjà qui mettent du temps à se faire voir, mais en tout cas des effets sur les inégalités qui sont assez immédiats. Donc, dans le cas de la Suède, vous avez beaucoup d'inégalités qui ont augmenté et probablement un poids de l'héritage qui va jouer à fond pour les générations futures. Ensuite, sur à quel moment c'est.
Enfin, c'est surprenant, non, pour ce pays-là.
C'est pas souvent su, c'est ça, oui. On a seulement les visions libérales des États-Unis qui ont été taxées de façon très progressive à partir des années 80. Vous avez aussi des pays. C'est pour ça que ce phénomène est assez inquiétant et assez, enfin, c'est un peu le but du livre, justement, de le documenter. C'est de montrer que cette tendance-là, on la retrouve aussi dans des pays qui sont originellement très égalitaires, en fait, qui ont ce poids de l'État-providence, etc., qui ont aussi cette tendance-là à supprimer l'impôt.
D'autant que les comportements familiaux que vous aviez étudiés, vous en avez parlé, pour votre thèse, continuent eux aussi à jouer dans ce sens-là. C'est-à-dire, on continue à se marier entre guillemets entre soi. Même les couples biactifs ont le même type de revenus, par exemple, qu'ils soient faibles ou qu'ils soient élevés d'ailleurs.
C'est ça, on a une.
60%, semble-t-il, des Français disent qu'ils veulent se marier dans leur milieu.
Oui, c'est ça. Donc, ça, c'était une étude qu'on avait menée avec Luc Arondel, justement, sur les questions, savoir est-ce que les personnes ont les mêmes préférences en termes d'épargne, est-ce que les prévoyants se mettent avec des prévoyants, ce qui n'est pas forcément évident. Vous avez des modèles qui vont vous dire que les gens vont équilibrer un peu leurs préférences. Et ce qu'on voyait, donc, c'était que, donc, à l'inverse, on avait vraiment une similarité très forte des préférences des individus. Donc, les gens qui sont prudents se mettent avec des gens prudents. Et pour essayer de comprendre ça, on regardait les différents niveaux les perceptions qu'avaient les individus de l'homogamie. On se rendait compte que, finalement, la question qui était posée dans l'enquête, c'était pour qu'un couple dure, qu'est-ce qu'il faut que les conjoints aient en commun? Donc, il y avait tout un tas de choses. On demandait est-ce que c'est important qu'ils aient les mêmes opinions politiques, la même philosophie, la même mode de vie. Donc, le mode de vie ressortait assez bien, ce qui est assez logique. Mais le deuxième élément qui ressortait, c'était donc, en effet, que 60% des couples trouvaient qu'avoir la même origine sociale, était favorisé. En fait, la bonne entente, la durée de vie du couple, ce qui peut paraître surprenant, mais ce qui montre à quel point avoir cette même culture, enfin cette même origine sociale et donc in fine les mêmes héritages peut être perçu comme un facteur de succès pour le couple au final. Donc c'est assez important de montrer que ces préférences-là jouent encore énormément aujourd'hui et que l'entre-soi joue énormément dans le cas du mariage. Ouais.
Alors le dernier point, Nicolas Frémaux, je voulais qu'on en parle aussi, même si là encore ça n'est pas typiquement français, loin de là, c'est la question des legs, la question de la philanthropie, du don, on va l'appeler, et qui, évidemment, est liée aussi à l'héritage. On n'a pas dit au passage, d'ailleurs, que la situation n'était pas facile, mais ça le rejoint, pour les familles sans enfants.
Oui, c'est ça.
Elles sont très fortement taxées, celles-là.
C'est ça, oui, c'est ce qu'on avait commencé à l'aborder.
Oui, on a commencé à l'aborder.
On a un impôt en France qui est très dual, c'est-à-dire qu'on va favoriser, en fait, justement, les transmissions en ligne directe entre parents et enfants. Et donc, justement, on arrive à 90% quasiment de transmissions qui ne sont pas taxées, soit parce qu'elles sont trop faibles et donc elles ne dépassent pas l'abattement permis. Et on a à l'inverse, en fait, 10% des personnes qui décèdent sans enfants, et donc ça s'est voué aussi à augmenter. Il y a de plus en plus de personnes qui sont sans enfants et qui sont taxées très fortement. Donc pour elles, c'est très compliqué en fait de transmettre un neveu, une nièce, un frère ou une sœur. Elles sont taxées très fortement. Donc le taux moyen en fait pour les successions, le taux moyen d'imposition pour les successions en ligne directe, c'est 2 ou 3%. Pour les successions en ligne indirecte, donc ça va être 25% directement. Donc il y a très peu d'abattements disponibles. Et donc ces personnes-là en fait représentent 50% des recettes fiscales. Donc on se dit que finalement l'impôt se maintient assez bien. C'est en partie dû à ces personnes-là qui, c'est peut-être pas ces personnes-là qu'on veut vraiment taxer. En tout cas, là, on a à travers ces personnes sans enfants, des gens riches, pas riches, on a toutes les situations finalement. Donc on a un système qui est très dual et qui promeut vraiment la famille au détriment des transmissions hors famille.
Une société moderne, selon vous, serait une société capable de transmettre un peu justement dans des conditions plus favorables, on va le dire, avec une législation moins rigide et notamment qui irait vers la philanthropie. Alors on sait que le phénomène est assez présent aux États-Unis. Encore que les chiffres m'ont un peu surpris. On va parler bien sûr de Bill Gates ou de Warren Buffett qui incitent et qui déjà eux-mêmes ne souhaitent pas doter leurs enfants de plus de la moitié de leur fortune, c'est bien ça, et qui incitent largement les autres milliardaires à en faire autant. Cela représente 1,4% du PIB aux États-Unis, c'est ça les dons, la philanthropie,
c'est ça,
je crois.
C'est ça, ils sont largement en tête, largement devant d'autres.
Ils sont largement, et c'est quand même pas énorme, 0,1% en France. Mais est-ce que cela viendrait justement encore de la législation très très limitée pour pouvoir transmettre à des associations ou des fondations?
Oui, c'est ça. Donc c'est ce qu'on a dit pour le impôt triduel. En fait, on
ou est-ce que c'est aussi des comportements sociaux quand même, selon notre culture?
Il y a un petit peu des deux. C'est en France, même si on veut, on peut pas forcément. Donc déjà, ça vous est empêché. Et peut-être qu'on veut pas non plus beaucoup. Si vous interrogez les Français justement sur la vision qu'ils ont de l'impôt, donc on sait que c'est très populaire. Et donc il y a notamment une étude du Crédoc et de France Stratégie, donc qui a été conduite par Pauline Grégoire Marchand, qui a essayé justement d'étudier un peu donc les préférences des Français. Et ce qu'on voyait, c'est que quand vous demandez aux Français est-ce qu'il faut augmenter ou diminuer l'impôt sur telle ou telle transmission, donc ils veulent justement diminuer les transmissions entre parents et enfants, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le poids des valeurs familiales, mais ils veulent pas faciliter les dons aux associations, donc ils sont pas pour plus de philanthropie nécessairement, ils sont vraiment pour se concentrer sur la famille et la collectivité. On verra, enfin en tout cas on va pas passer forcément par la philanthropie, on peut passer par d'autres canaux. Donc en France, il y a à la fois une limitation par la législation, par justement cette quotité disponible qui fait que vous pouvez pas transmettre tout ce que vous voulez, mais il y a aussi une volonté qui est pas forcément présente.
On est loin de la dotation universelle qui a pourtant été proposée dès la fin du XVIIIe siècle par un autre penseur, Thomas Paine. Enfin, elle a dû un petit peu évoluer. Et le principe a existé en Grande-Bretagne, mais assez brièvement.
C'est ça, donc ça n'a pas été
alors
abondé
vous
très
nous le rappelez,
longtemps,
ça n'a pas duré longtemps, hein, supprimé par Cameron. Je crois que ça a démarré en quelle année, je ne sais plus,
j'ai plus en tête. Début, alors j'ai plus la date exacte en tête. Donc
mais ça a duré que quelques années.
C'est ça, ouais. Le fonds n'a pas été abondé, donc finalement c'est tombé un petit peu. Mais il y avait cette idée-là, en fait, de, donc, voilà, similairement au revenu universel, de doter les gens d'un capital au début. Alors, après, on peut discuter du moment, mais souvent au début de leur vie, à 18 ans, au moment où ils entrent dans la vie active. Donc après, à partir de quelle recette, ça serait potentiellement celle aussi de l'impôt sur les successions. Donc on pourrait taxer les plus grosses successions pour ensuite les retransmettre donc aux gens qui n'ont rien. Donc ça, c'est un mécanisme qui est assez important. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous taxez plus progressivement, ça change rien pour les personnes qui n'ont rien à recevoir. Donc faut bien, si vous les redistribuez par les bas, on peut passer justement par ces dotations-là. Ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez énoncé le principe, en fait, vous n'avez pas dit grand-chose, parce qu'il y a énormément de paramètres à trancher. Donc, comme pour le revenu universel, il faut savoir donc à quel moment on va transmettre. Est-ce que c'est à la retraite, comme certains recommandent, notamment Thomas Paine, il avait les deux, donc au moment de la retraite ou plutôt dans la vie. Combien on va transmettre, surtout? Est-ce que c'est vraiment universel ou pas? Est-ce qu'on conditionne ça à des types de dépenses? C'est-à-dire qu'on vous donne seulement si vous montez votre entreprise ou seulement si vous vous éduquez? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait ensuite des autres politiques sociales? C'est-à-dire qu'une des tendances, justement, et des partisans du revenu universel ont un peu cette tendance-là. Enfin, il y a certains partisans qui vont vous dire, on vous donne ça, et après, c'est chacun pour sa peau. Et voilà, c'est une dotation. Et donc après, on est tous sur la même ligne de départ, ou à peu près. Et chacun se débrouille. Donc justement, là, on revient sur les asymétries d'information, sur qu'est-ce que vous allez faire de votre capital. Et ça, voilà, on peut finalement contribuer à tout annuler en termes de politique sociale derrière. Il faut bien voir ce qu'on veut quand on met en place ce genre de politique-là. Donc c'est une politique qui est intéressante, mais qui pose énormément de questions sur tous ces paramètres qui sont assez nombreux.
Donc vous soutenez beaucoup la tenue d'un débat, pour le moins, sans parler encore de changer la fiscalité. Vous aimeriez au moins qu'il y ait cette prise de conscience, au fond, qu'on est dans une augmentation vraiment assez spectaculaire de la part de l'héritage, hein, versus l'épargne, et encore plus versus le produit du travail. Et ce débat n'a pas lieu pour l'instant.
C'est-à-dire que ça revient dans le débat. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de conséquences politiques. Donc, dire que ce débat n'a pas lieu du tout, c'est un petit peu exagéré, parce qu'il y a notamment l'ouvrage de Thomas Piketty qui s'est beaucoup vendu et qui a beaucoup fait parler, même si les gens n'ont pas forcément retenu ces résultats sur l'héritage qui étaient dans le livre, en fait.
Donc, il en parle tout à fait.
Je sais pas, chapitre 11 du livre.
Taxer le capital et le reste.
Et notamment en notant ce retour du patrimoine. Donc, c'est ça, je pense que c'est vraiment une question de société, enfin, la question de l'héritage qui est très forte. C'est-à-dire que ça conditionne énormément de choses. C'est-à-dire que l'héritage, même avant d'hériter, ça va conditionner énormément de choses sur les choix que vous allez faire en termes d'éducation, en termes de carrière. Donc une société où tout est joué dès le départ, moi c'est pas une société qui me donne envie, mais surtout c'est vraiment une société dont on doit débattre en fait. Donc c'est pas forcément une société qui est plus efficace non plus, donc il y a des travaux à nouveau qui nuancent le sujet, mais clairement en termes de bien commun et de cohésion sociale, c'est une société qui peut être hautement critiquable. Donc je pense que c'est vraiment, ça doit pas rester aux mains des économistes seulement. Et faut vraiment savoir ce qu'on veut faire ici. Donc la tendance actuelle qui est assez inquiétante, c'est malgré les Français sont vraiment conscients des inégalités. Les Français sont pas du tout stupides là-dessus. Si on leur demande est-ce que vous trouvez que la société est trop inégale, 90% vous répondent oui. Donc c'est bien ça le problème, c'est qu'on a d'un côté un constat qui, en tout cas une perception d'inégalité qui est très claire, mais de l'autre côté une absence de réponse politique parce que on va se replier sur la famille et qu'on a cette montée d'individualisme. Donc c'est un débat. Je pense qu'il faut, même si les gens en sont conscients, c'est pas qu'on peut éviter une société d'héritiers, c'est qu'on n'en a pas forcément envie en fait aujourd'hui. Donc c'est ça le problème. Et le but du livre, c'est d'essayer au moins de faire un état des lieux et que les gens ont toutes les cartes en main pour décider de tout ça.
Notre thème général, c'est donc dans ce monde d'inégalité, ce monde inégal, qu'avons-nous en commun dans cette partie-là très, très spécifique que vous avez étudiée, on pourrait mettre bien davantage en commun.
Oui, non, mais c'est un des points positifs, c'est qu'on n'a jamais été aussi riche. Donc il y a aussi énormément de masse.
Oui, toute cette richesse, on peut quand même...
Voilà, on peut en faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité, enfin, ce que nous montre l'histoire, et donc ça c'est assez important aussi d'avoir ce recul historique, c'est ce que nous montre l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans une société d'héritiers, on sait comment faire, il faut simplement que les gens en aient envie. Aujourd'hui, vous pouvez pas, c'est tellement impopulaire que si vous présentez à la présidentielle avec ce genre de réforme-là, enfin, vous êtes sûr de ne pas être élu, parce que les Français ne vont pas voter, enfin, ils votent pour plein de choses en même temps, donc on ne peut pas juste isoler le débat sur la question de l'héritage, mais aujourd'hui c'est très très impopulaire, donc il faut que les Français en aient envie. Et le problème c'est que ça, c'est cette absence d'envie aujourd'hui. Donc on peut débattre entre économistes sans cesse de le côté efficace ou inefficace de l'impôt, essayer de mettre en place l'impôt le plus intelligent possible, justement pour pas faire que les entrepreneurs arrêtent d'entreprendre notamment. Mais aujourd'hui, c'est surtout la question du retour des valeurs familiales et du fait que ça prend le pas sur toutes les autres formes de solidarité. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, je pense, du débat. Oui.
Valeurs familiales vécues comme refuge quand même, dans une société assez angoissante.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que finalement, ces arguments.
C'est aussi les réponses que donnent les gens hein, lorsqu'on leur pose la question.
Oui, non, mais d'un point de vue individuel, on est tout. On a tout intérêt, je critique pas du tout les gens qui se replient sur leur famille, parce qu'on aurait tous tendance à faire ça, évidemment, mais c'est à quel point vous allez privilégier votre famille par rapport à tout le reste, en fait, aujourd'hui, c'est ça vraiment la question. Et en même temps, ce que montre notamment le livre de Raphaël Glucksmann récemment, c'est qu'on a un retour aussi, la famille qui va prendre le pas sur des autres formes de solidarité qu'on avait avant, qui étaient le parti, le syndicat, l'entreprise, qui aujourd'hui se délite, et on est juste un individu tout seul, et la seule chose auquel on peut se rapprocher, c'est sa famille. Donc aujourd'hui, on en est là, et voilà, il faut réinventer des choses. Donc c'est un débat qui va prendre beaucoup de temps, c'est une tendance qui est très longue, donc je suis personnellement assez pessimiste, mais bon, il y a vraiment des solutions qui s'offrent à nous. Oui.
Et on suivra vos travaux, je gage que vous allez continuer à vous intéresser à cette très très bonne question. Merci encore Nicolas Frébois d'avoir participé. Les nouveaux héritiers, donc la République des idées, c'est paru aux éditions du Seuil. C'était effectivement une contribution à notre série sur ce monde inégal. Et qu'avons-nous en commun, qu'avons-nous à préserver? C'est un vrai enjeu démocratique, on l'a bien compris pour vous. Merci aussi à notre petite équipe, Élise Le, Anne-Laure Chanel pour la réalisation, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, préparation, documentation, plusieurs titres à vous suggérer, les travaux de Nicolas Frémaux et d'autres que nous avons également cités. Et venez nous retrouver aussi sur Twitter @domrousset. Très bonne soirée à tous.